amigos et bienvenue dans Silicon Carnet, le podcast tech picante, coproduit avec French Web. Mon nom est Carlos Diaz, investisseur, entrepreneur et podcasteur. Je suis le gringo en chef de cette émission. Je vis à San Francisco depuis maintenant plus de 10 ans et je vous propose chaque semaine de décoder avec mes invités les sujets caliente de la Silicon Valley. Alors vous le savez, si vous suivez cette émission, on vient de lancer les premiers NFT Silicon Carnet depuis quelques semaines et les deux premières éditions sont déjà sold out. Les 80 NFT de l'émission Guerre et Tech pour aider l'Ukraine se sont vendus en quelques jours et ont permis de réunir 1,4 Ethereum directement reversé sur le compte en crypto du gouvernement ukrainien. Et il ne reste, je crois, qu'un seul NFT des deux premières minutes du premier épisode de Silicon Carnet. Comme vous le savez, on ne veut pas de pub dans Silicon Carnet, on refuse de mettre notre contenu derrière un paywall, on préfère vous proposer des NFT pour vous permettre de devenir propriétaire de nos contenus et d'échanger avec nous. D'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, chaque émission de Silicon Carnet sera disponible sous forme d'un seul et unique NFT dans sa version intégrale. Chaque semaine, vous pourrez devenir donc le propriétaire d'un épisode de Silicon Carnet et on réserve plein de surprises aux détenteurs de ces NFT. Ça se passe sur uncut.fm. Dépêchez-vous car je pense que le NFT de cette émission va partir très 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 vite. Allez, retour à votre épisode. Les NFT, ces tokens non fongibles, ont rapidement fait fureur ces derniers mois et sont devenus en même temps un sujet de discussion, voire de discorde. Certains les considèrent comme une révolution géniale, d'autres comme une vaste fumisterie. En tout cas, les NFT nous permettent de nous poser enfin sérieusement la question de la propriété digitale. La technologie basée sur la blockchain permet pour la première fois de prouver la propriété, la validité et la rareté de nos actifs numériques. Du coup, les artistes, les créateurs et des plateformes nouvelles se saisissent de l'occasion pour mettre à la vente tout ce qui est numérique, qu'il s'agisse d'art, de musique, d'un podcast comme Silicon Carnet ou même d'une vidéo d'un dunk en NBA. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui les NFT changent la donne de l'économie numérique en introduisant la notion de propriété digitale et ça laisse entrevoir un nouveau potentiel alors que nous vivons de plus en plus en ligne. Bientôt peut-être nous porterons plus de crédit à la propriété de nos biens numériques à celle de nos biens physiques. Je vous propose de parler de cette semaine de Digital Ownership avec mes invités. J'ai deux invités avec moi aujourd'hui dans Silicon Carnet. Mon premier invité, c'est Julien Genestou. Il est basé à New York. Il est le fondateur de Unlock, un protocole sur la blockchain qui permet aux créateurs de monétiser leur contenu en leur permettant de créer des sortes de membership card, d'access card au format NFT. Avant cela, Julien, tu avais créé Superfeeder que tu as revendu à Medium il y a quelques années. Julien, c'est ta première fois dans Silicon Carnet, bienvenue. Comment
Merci.
Tu vas?
Merci. Bah écoute, très très bien. Écoute, comme on dit, long time listener, first time speaker. Super content d'être là avec toi aujourd'hui, enfin avec vous aujourd'hui. Ouais. Et de vous en dire un peu plus sur mon parcours évidemment, mais évidemment de parler avec vous de digital ownership parce que je pense que c'est ça la vraie innovation des blockchains, des NFT, du Web3.
Absolument. Unlock, donc c'est ce protocole. On parle plus de plateforme, hein, on parle de protocole. Donc c'est un terme qu'il faut qu'on commence à mettre dans son vocabulaire, c'est ça?
On reparle de protocole parce que si on revient 25 ans en arrière, le web, c'était pas des plateformes, c'était justement des protocoles, c'était HTTP, c'était FTP, c'était Gopher, c'était tout ça. Ouais. Il se trouve que pendant les 15-20 ans, bah, ça a un peu disparu du vocabulaire parce que ça paraissait un petit peu ringard et has-been. Mais on se rend compte aujourd'hui que justement, c'est la clé de toute cette digital ownership, à mon sens.
Absolument. Et donc, vous, ce que vous permettez, c'est justement de créer ces sortes de NFT qui sont comme des badges d'accès, comme ce badge qui me permet de rentrer à la gym, quoi, grosso modo.
Exactement, c'est un peu des cartes de membres, vraiment, tout simplement. Ça peut permettre le badge qui permet de rentrer à la gym, c'est la carte, c'est le ticket du concert, c'est l'abonnement Netflix, c'est vraiment l'idée d'une carte de membre qui t'appartient, qui est attachée à ton wallet numérique et qui te permet de t'identifier et de prouver à un site, une application tierce que oui, tu as bien droit à certains bénéfices puisque tu es membre à part entière de leur communauté d'une autre communauté d'ailleurs.
C'est absolument génial. Mon deuxième invité, c'est Eli Auvray. Il était encore il y a peu à San Francisco, c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, et tu as décidé décidé de rentrer en France pour créer Lodion. C'est une blockchain qui est opérée par des legal officers et qui permet de renforcer, et ça tombe bien, la protection juridique des actifs numériques. Et avant ça, je le rappelle, tu étais cofondateur de Jaya. Comment tu vas, Ellie ?
Eh ben écoute, ça va très bien. Très heureux d'être également avec toi et avec vous. Je suis content d'entrer dans l'hacienda d'El Gringo. Je suis long time listener comme
Julien.
Comme Julien, exactement. Et très 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 heureux d'être là et de parler d'un sujet effectivement piquanté. parce qu'effectivement, les NFT, à partir du moment où ça commence à arriver sur les médias, on va dire traditionnels, et forcément par la mauvaise porte, puisque forcément les NFT vont permettre de favoriser des drug lords ou des mauvaises pratiques, et on a un peu l'impression de revenir au premier balbutiement du protocole et du web.
Ouais, c'est vrai.
Et vu le succès que l'on a vu dans cette infrastructure, on peut imaginer qu'elle va devenir aussi déterminante, et les NFT vont faire partie de cette révolution, j'en suis intimement convaincu.
Absolument. On est tous les trois intimement convaincus. On n'a pas de détracteurs dans cette émission, mais ça ne nous empêche pas d'avoir une vision quand même critique de nos propres convictions. J'avais envie de commencer cette conversation en vous posant une question assez simple. Je vais peut-être commencer par toi, Julien. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui l'explosion récente? Elle est absolument colossale, hein. C'est plus de 40 milliards de dollars échangés l'année dernière autour des NFT. Pourquoi ça s'est passé là, maintenant? Ça s'est passé en 2021 et que ça continue en 2022 et je pense que c'est pas fini. Comment t'expliques ça, Julien ?
Écoute, il y a plein de tendances qui viennent en même temps. Je pense qu'un des gros points qu'il faut pas négliger, c'est évidemment que le fait qu'on est resté enfermé chez nous pendant 2 ans et qu'il y a pas mal de gens qui ont pu s'occuper d'une façon ou d'une autre avec de l'art, ou en tout cas des collectibles, comme on dit en anglais, d'une façon un peu différente. Mais après, je pense que c'est une réponse à tout un tas de choses intéressantes. Bah, la creator economy qui a émergé maintenant il y a 5-6 ans et qui commence à devenir vraiment quelque chose d'établi, et tout un tas de créateurs qui se posent la question de savoir quelle est l'étape d'après. C'est l'émergence, mais presque la résurgence des blockchains. Ça fait maintenant, ça va faire 12 ans que Bitcoin existe, ouais. Et on se rend compte que c'est bien, le sujet currency est un vrai sujet, mais que ça dépasse ce point-là. Ça fait partie pour moi des deux gros points importants. Et puis après, il y a la contestation de l'ordre établi sur Internet. Faut pas se mentir, le monde crypto, le monde NFT, le monde Web3, c'est un peu l'underground, l'environnement un petit peu sale, hein, sur lequel se font certaines choses qui sont pas très éthiques, mais qui en même temps est un lieu de créativité folle. Et pour ceux qui se rappellent les origines du web, c'était pareil, il y avait des choses pas très délicieuses, on va dire, et puis en même temps, ça a permis de construire
pas très catholique,
voilà, de construire ce cerveau collectif, parce que moi je considère vraiment qu'Internet aujourd'hui c'est un cerveau collectif, c'est vraiment c'est l'operating system de l'humanité, c'est ce qui nous permet de travailler ensemble, et donc tout un tas de questions qui se posent sur le fait que maintenant ce cerveau collectif il appartient, on va dire, et on va parler évidemment de ce que ça veut dire, à 5 boîtes pour être clair, et donc comment est-ce qu'on arrive à reprendre dessus la pluie. Il y a un petit côté empire, enfin pas l'empire contre-attaque justement, mais la
le côté force, quoi, justement contre l'empire et contre cette étoile noire ou ces étoiles noires,
ces cinq
étoiles noires qui aujourd'hui dominent l'Internet, et les utilisateurs ont envie de reprendre le pouvoir et de reprendre le contrôle de leur destinée, comme un Luke Skywalker ou comme des Jedi qu'on fait face
ou
à l'empire.
Légas, mais ouais, tout à fait, exactement.
Ellie, toi tu fais le même constat de ton côté, il y a cette prise de conscience que peut-être on a trop donné aux plateformes et que le Web3 est une alternative qui permet de reprendre le contrôle.
Alors absolument, je dirais que on est peut-être arrivé, alors même si c'est on est quand même dans un écosystème qui est très jeune, dans la manière qu'il a d'appréhender les technologies, et tous ceux qui travaillent dedans savent à quel point ça pique un peu quand même des fois quand on regarde les applications, c'est pas encore à la portée de tout le monde, mais j'ai quand même envie de dire que on est peut-être arrivé au moment, comme tu dis souvent Carlos, timing is everything, je pense qu'on est peut-être arriver à un espèce d'alignement des planètes, un moment de product market fit entre les technos de blockchain et la rencontre d'un public qui est justement non techos, donc qui est pas complètement dans la technologie, mais qui aime la technologie et qui se rend compte qu'il y a effectivement ici un vrai outil d'indépendance. Et ça arrive de manière une conjonction avec une omniprésence qui commence vraiment à poser des questions de plateformes centralisées. Alors les banques typiquement c'était acté voilà parce qu'on pouvait pas faire autrement. En revanche sur la créateur économie, sur ce que les gens ont l'argent, ça paraît tellement tellement quelque chose qui est partagé par tout le monde et neutre que les gens n'y font pas attention. Par contre les gens qui créent des choses, c'est tellement proche de ce qu'ils sont. De là, cette omniprésence, alors c'est peut-être pas le mot actualité, mais il y a quand même une forme de dictature, c'est-à-dire de contrôle absolu de ce que je crée lorsque j'utilise les plateformes pour le diffuser et le monétiser. Ça a peut-être touché les gens beaucoup plus rapidement, et donc il y a cette espèce d'alignement des planètes qui fait que voilà, une technologie, un besoin, un mouvement de fond sociétal, et ben on a un vrai product market fit. Voilà.
Perfect Storm, c'est ça quoi en fait. La Perfect Storm, on est dans la Perfect Storm. Tu le dis un petit peu, c'est la finance décentralisée, la DeFi qui a énormément utilisé à la fois la blockchain et les crypto-monnaies et qui ont introduit la notion de valeur quoi en fait sur des assets digitaux et des assets numériques qui ont permis quelque part de se poser ces questions-là. Et comme le disait Julien, il y a un nombre croissant de créateurs et tu as raison de le souligner. Julien, certainement le Covid a été clairement un déclencheur de ça. On a vu plus en plus de gens parce qu'ils avaient plus de temps créer des choses online. Mais ce qui est vachement intéressant aussi dans ce mouvement-là des NFT, c'est que, bien évidemment, on parle des grands artistes, mais il y a une longue taille qu'en fait des artistes en ligne qui utilisent les NFT.
Qui a même commencé, je dirais, avant les gros artistes. Alors aujourd'hui, on voit tout le monde sur Twitter avec son petit gorille, enfin, je peux vous dire ape en français, son grand singe. Oui. Mais évidemment, ça n'a pas commencé avec Paris Hilton. Hein. Ça a commencé avec d'abord tout un tas de gens au printemps de l'année dernière qui se sont dit que c'était un projet NFT sympa, qui est de fait venu sur le devant de la scène. Un autre point qu'il ne faut pas négliger, tu parles de DeFi, et je pense que ça peut être l'indiquer, c'est un point que les détracteurs font souvent, c'est de dire que dans tout ce qui est DeFi, il y a plein de gens qui se sont enrichis de manière un peu exponentielle, on va dire, et qui ont besoin d'écouler leur argent, et que l'écouler entre guillemets en achetant des NFT de leurs copains, c'est un moyen de pas dire blanchir de l'argent, parce que je pense que la plupart,
de l'utiliser quoi.
Exactement, de l'utiliser et de le garder dans le système, c'est-à-dire que sortir de DeFi pour aller ramener ça sur ton compte en banque, c'est compliqué, et finalement c'est pas très drôle, c'est parti en arrière, alors que tu dis en fait j'utilise ça pour aller acheter des NFT, d'un seul coup il y a un petit côté je reste dans le système et je contribue à ma manière au prochain développement du système. Parce qu'en fait, il ne faut pas se mentir, DeFi est encore là, restera là probablement pour les années à venir, mais sera d'autant plus fort qu'il y aura d'autres use cases, d'autres usages de la blockchain que des usages purement financiers.
L'avènement des NFT aussi, Julien, c'est... que les créateurs font face à un véritable problème de monétisation. Aujourd'hui, ils sont sur des plateformes qui sont centralisées et ils doivent se conformer au modèle de monétisation, au modèle économique de ces plateformes-là, qui servent très très bien les grands créateurs, mais la middle class des créateurs, elle n'y arrive pas. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Silicon Carnet. Si je veux monétiser Silicon Carnet aujourd'hui, soit je monétise mon audience, mais je ne suis pas Joe Rogan, je n'ai pas des millions de personnes qui m'écoutent. J'ai reçu un mail il y a quelques semaines d'une plateforme d'advertising qui me proposait $400 par mois pour 2 sponsors dans chaque émission de Silicon Carnet. Autant te dire que j'ai dit non immédiatement parce que je m'en fous, quoi. En fait, $400, qu'est-ce que ça va changer? Rien du tout. Et j'ai pas envie d'avoir des sponsors et faire la promotion de trucs dont je me fous, quoi, en fait. Et puis, mettre son contenu derrière un paywall. Comme un Patreon ou des choses comme ça, c'est aussi mettre le créateur dans une forme de dictature du contenu, puisque à partir du moment où tu as des subscribers, il faut fabriquer de plus en plus de contenu. Donc ça marche pas non plus, quoi, en fait. Donc ces NFT ont été l'occasion de monétiser un nouveau concept qui est le monétiser ta communauté. Tu monétises pas ton audience, tu monétises pas ton contenu, tu monétises ta communauté. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire de monétiser sa communauté, Julien ?
Ouais, en fait, je te reverrai bien. Action parce que pour moi ça veut dire plein de choses à la fois, mais le point que tu fais sur le fait que tu es coincé dans les business models existants, pour moi c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait les plateformes elles-mêmes décident de comment elles monétisent et décident même à l'extrême du format. Il y a des articles qui sortent tous les jours sur la durée optimale d'une vidéo sur YouTube. C'est complètement dingue d'imaginer qu'en fait, en tant que créateur, j'en suis au point de me dire, si je veux optimiser l'argent que je gagne, il faut que je fasse 12 minutes 50, ou je sais pas combien c'est, parce que si je suis un peu en dessous, eh ben, je vais pas optimiser mes utilisateurs. Si je suis un peu au-dessus, les gens drop et donc rate la dernière pub. Donc en fait, on se retrouve dans un système où tout le monde fait la même chose, parce qu'en fait, c'est le format le plus rentable selon les algorithmes de recommandation de la plateforme et selon les algorithmes de fonctionnement de la plateforme. Tu parles de paywall, pour moi, c'est la même problématique. C'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves, si tu vas tout sur Patreon ou tout sur Substack, on peut dire, bah, en fait, tout le monde est obligé d'avoir le même format parce que c'est ce qu'impose la plateforme. Alors que par définition, un créateur doit être créatif et doit être capable de dire, moi, je vais faire quelque chose d'un peu différent, bah, je vais effectivement vendre mes épisodes, je vais plutôt organiser une conférence tous les vendredis soirs en ligne. Mon contenu est totalement gratuit sur Internet, sauf que la conférence en ligne, c'est un Q&A, c'est une discussion asynchrone avec mes fans, et ben ça je peux le faire si je suis en contrôle de la relation que j'ai avec mes fans. Et donc d'où l'intérêt des NFT dans ce cas-là, c'est que ça me permet de décider, de dire j'ai un moyen facile d'identifier qui sont mes fans, qui sont mes membres, et donc me permettre d'exprimer cette relation, d'exprimer les bénéfices que je veux offrir à mes membres de la façon que je souhaite en tant que créateur, plutôt qu'encore une fois de me conformer à l'algorithme optimal de YouTube, de Twitch, de Patreon et je ne sais quoi.
Oui, et en plus, ce qu'il faut dire, hein, c'est le cas notamment avec ces NFT de Silicon Carnet, c'est que le contenu, il reste accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que tu peux continuer à écouter cette émission sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur n'importe quelle plateforme de podcasting. Le NFT, lui, il te donne une propriété supplémentaire. C'est-à-dire que tu peux dire que je suis le propriétaire d'une copie en fait de cet épisode et surtout un accès à des choses, à des expériences uniques. Mais le contenu, lui, reste disponible pour tout le monde. Donc c'est un plus, c'est pas un truc qui est limitant comme pourrait être Patreon en disant mon contenu, si t'es pas abonné, t'y as pas accès quoi, en fait quoi. Donc
moi je rajouterais un point qui me paraît aussi absolument fondamental, outre la partie monétisation, la partie financière. Je rejoins complètement Julien sur l'aberration de mettre en œuvre un contenu pour essayer de capter un maximum d'audience, mais c'est lié au deuxième point, c'est que tu n'as pas la propriété de ton audience. C'est-à-dire au final, si du jour au lendemain Spotify te dit tu rapportes pas assez d'argent, ciao, tes fans, même s'ils sont que 1000 mais qui t'adorent et qu'ils seraient tout à fait capables de te faire vivre, en fait ils ont plus de moyens de t'écouter. Donc c'est l'opposé de ce que promettait le côté social, justement, de ce qu'on a appelé le Web 2. Et moi, ce que je trouve vraiment génial dans ce rapprochement en fait des créateurs et de leur audience par ce mécanique des NFT, c'est que ce côté appartenance à un club permet vraiment, non pas un contrôle, parce que j'aime pas le terme, mais en tout cas un rapprochement et une proximité, en fait, du créateur avec son audience. Et il y a personne qui va à un moment lui dire, écoute, t'es gentil, mais ton audience, tu fais une croix dessus, elle m'appartient. Là, c'est vraiment son audience, et c'est sa responsabilité de faire des choses qui vont lui plaire.
Et ça va même plus loin, Élie, c'est que même on pourrait imaginer qu'à partir du moment où tu as un NFT, mon économie que je crée de NFT, je peux même la partager avec mon audience. C'est-à-dire que je pourrais très bien, et on le voit dans le domaine de la musique, où on peut acheter des NFT qui te donnent une sorte non seulement du ownership, mais aussi un intérêt en fait sur l'économie, sur les revenus qui sont générés du côté du créateur.
Scorsese est en train de financer son prochain film en vendant des tokens, quoi. Et en disant, on partagera. Ce qui est génial dans les NFT, c'est qu'ils sont générés par ce qu'on appelle des smart contracts, c'est-à-dire des programmes qui automatisent les règles qui ont été définies par les parties. Donc, on va revenir à un côté un peu juridique, mais c'est exactement ça. Et si dans tes règles, tu dis, par rapport au produit de la vente des NFT ou au produit de la vente du film, automatiquement, et je dis bien automatiquement, il n'y a pas quelqu'un qui doit appuyer, vérifier, etc., parce que tout a été fait en amont, mais automatiquement, tous ceux qui sont titulaires d'un NFT prendront l'équivalent de X% par NFT détenu, et tu crées une mécanique de financement d'un artiste où quelque part, un créateur comme Scorsese va pouvoir s'affranchir des diktats de son producteur. Ouais. Quand on va lui dire, écoute, 2h30 pour ton film, c'est pas possible. C'est 2h02, la norme, parce que sinon, c'est trop long. So what? Pourquoi? S'il a envie de faire et qu'il a une audience pour, il va vraiment pouvoir financer son art.
Et ce qui est génial, Julien, dans ça, c'est que dans cette histoire de blockchain, c'est comme le dit Élie, c'est complètement automatique. Si je voulais faire ça sans la blockchain, il faudrait que je crée une société, il faudrait que je crée des contrats avec chacun de ces personnes-là, il faudrait que j'ai un compte bancaire, il faudrait que je fasse moi-même ces transactions pour redistribuer cet argent.
C'est ça, il faudrait que tu aies tout un tas d'intermédiaires que tu puisses espérer se comportent de la bonne façon, sachant que ces intermédiaires-là, bah on va sans doute en parler, mais eux-mêmes ont des intérêts économiques qui peuvent diverger des tiens. Un ou un autre, ils peuvent dire, bah, écoute, tu sais quoi, on change de business, désolé, mais on ne veut plus te rendre service, bah, là, comment tu fais? On peut dire, bah, tu sais quoi, en fait, on ne change pas vraiment de business, mais on va augmenter notre revenu, on va changer notre API. On parle de Web2, mais le nombre de gens qui ont construit des boîtes qui soient basées sur Facebook, sur Twitter, qui se sont pété la gueule parce que du jour au lendemain, Facebook ou Twitter a dit, vous savez quoi, en fait, non, on change. Et donc, ça permet vraiment.
Les intérêts,
et je suis à la même contrainte que Ellie sur le mot contrôle, parce que ça fait tout de suite contrôle des mentalités, mais c'est vraiment de dire je suis en contrôle au sens où c'est moi qui décide ce qui me concerne, les autres décident ce qui les concerne, c'est pas quelqu'un tiers qui va décider ce qui me concerne. Et pour moi, ça, c'est vraiment une des gros tenants de la ownership. C'est pas juste un aspect financier, propriété, c'est un aspect, voilà, je suis en contrôle de ça.
Ou c'est ma communauté.
Je décide donc de quelle couleur ou de quelle, voilà, comment ça marche.
Et quand je parle de ça, quoi, en fait, souvent on m'oppose en disant ouais, mais en fait c'est du crowdfunding. C'est pas du tout comme du crowdfunding. Ça, Ellie, comment est-ce que tu expliquerais la différence avec du crowdfunding?
Bah, en fait, c'est exactement ce que j'ai indiqué là. C'est toute la différence, c'est la présence de la communauté justement. La communauté, en fait, dès qu'on parle de blockchain et potentiellement de NFT, t'as une notion de possibilité de gouvernance. C'est-à-dire que ta communauté, si tu associes à ton token en fait un droit de vote, tu peux associer une gouvernance pour faire évoluer ton projet dans les directions qui. Mais c'est comme une discussion que tu as avec ta communauté et qui va s'établir et qui peut aider le créateur, mais sans parler de contrôle. C'est-à-dire qu'on est bien dans une relation qui va être de proximité et c'est pas juste donner de l'argent. Parce qu'effectivement, si c'est juste donner de l'argent, c'est du crowdfunding. Là, on est dans quelque chose qui le NFT, c'est pas que de l'argent. C'est potentiellement un droit de participation, une implication, un droit d'accéder à quelque chose d'autre.
Et un retour sur investissement, ce que tu n'as pas dans le crowdfunding, qui est souvent du pré-order, quoi, en fait, où grosso modo tu achètes en avance un produit et ça aide énormément le créateur. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi une sorte de asset. Alors, je te pose la question, Julien, mais ces NFT, est-ce qu'ils vont pas devenir des securities au sens de la SEC? C'est-à-dire que là, tout d'un coup, quand j'achète le NFT de cet artiste qui me donne le droit sur ses droits de streaming, c'est un investissement qui peut se valoriser dans le temps et on sait qu'il y a cette notion de securities. Donc aujourd'hui, les NFT ne sont pas des securities, mais est-ce qu'ils risquent de le devenir?
Certains, sans doute, pas tous. Après, bon, évidemment, je ne suis pas un avocat, comme on dit ici, I'm not a lawyer, donc il faudra bien prendre ce que je dis avec une pincée de sable, mais il faut bien comprendre que les NFT eux-mêmes, il en existe autant que des sites web. Moi, je considère que le NFT, c'est vraiment une primitive au même titre qu'un nom de domaine, qu'une adresse email, toutes ces choses-là peuvent être différentes. Donc il y a des NFT qui vont avoir en leur sein une attente d'appréciation de valeur, ce qui vont probablement ceux qui vont ressembler le plus à des sécurités d'un point de vue financier, mais tu vas avoir des NFT qui n'ont a priori pas d'appréciation, enfin qui n'ont pas avoir de vocation à s'apprécier en valeur ou qui sont même pas transférables. Je pense par exemple à un diplôme d'université. Nous, chez Unlock, on a de plus en plus de gens qui utilisent Unlock pour ça, qui utilisent en fait Unlock comme pour des certifications. Donc de dire Carlos a obtenu son diplôme de mon côté, c'est un NFT que je te donne, que je t'attache à ton adresse, qui n'est pas transférable. Que tu peux pas revendre, qu'il n'est pas transférable. Tu pourras même pas le donner à quelqu'un d'autre puisqu'il est d'un point de vue logiciel, il est coincé entre guillemets chez toi. Tu pourrais éventuellement le supprimer, le brûler, mais tu ne peux pas l'envoyer à quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a peu d'attentes qui s'apprécient en valeur et que tu puisses le classer comme sécurité.
Alors, j'aimerais qu'on parle qu'on revienne au principe de propriété numérique, parce que tu as écrit un article il n'y a pas longtemps, Julien, qui est remarquable d'ailleurs. Je tiens à te le dire, qui est très, très bien construit et très très bien rédigé d'ailleurs, et tu parles de cette notion de propriété numérique et j'aime bien quand tu expliques que il faut expliquer les choses. La propriété, c'est une construction sociale. Chez certains peuples primitifs, ce concept-là, il n'existait pas véritablement et c'est quelque chose qu'on a vu émerger récemment finalement. C'est ça ce que tu expliques.
Alors je sais pas si c'est récent. Je pense que dans nos civilisations, on va dire indo-européennes, c'est quelque chose qui date d'un petit moment déjà, mais c'est quelque chose qui, par exemple, n'existait pas ici aux États-Unis avec les natifs, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de propriété, en tout cas pas de propriété du sol. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose, voilà, c'est évidemment une construction. Puis même, on peut dire d'un point de vue physique, le fait que je possède quelque chose, il n'y a aucune, enfin voilà, un extraterrestre qui vient sur Terre aujourd'hui, qui ne sait pas lire, ni écrire, ni comprendre, je pense qu'il va avoir du mal à comprendre que ça, c'est ma voiture et pas la tienne. Enfin, je veux dire.
D'ailleurs, les animaux n'ont pas cette notion de propriété.
N'ont pas cette notion de propriété. Et en fait, ce que moi j'explique dans l'article et ce qui me paraît être hyper intéressant, c'est de comprendre qu'en fait, toute propriété qu'on envisage aujourd'hui, en fait, elle est liée à un moment ou à un autre à ce que moi j'appelle de la force, c'est-à-dire quelqu'un qui va être entre guillemets plus fort que toi. Donc, alors historiquement, c'était évidemment la loi du plus fort. C'est mon château, ton château, bah, je suis plus fort que toi. Maintenant, ton château, c'est mon château. Quand les lois émergent, bah, en fait, c'est la force légitime, la force de l'État, qui est celle qui s'exprime. C'est-à-dire que si tu me vends ta voiture et que tu décides, enfin, voilà, j'ai acheté ta voiture et que tu décides de pas me donner ta voiture, à un moment ou à un autre, alors soit je peux venir chez toi et essayer de prendre la voiture de force, marchera peut-être pas forcément. Soit je peux aller appeler mon commissariat local qui va venir en disant, regardez les gars, j'ai mon juge, regardez, j'ai bien la preuve d'achat, il faut aller chercher. Et là, il y a quelqu'un qui, par la force, va venir chercher ta voiture. Donc, toute notre construction de propriété aujourd'hui, elle est basée à un moment ou à un autre sur de la force.
Sur de la force, et donc, je passe la balle à Ellie, cette force, elle s'exerce aujourd'hui de façon contrôlée par un cadre légal. Quoi, en fait. C'est-à-dire que sans légalité, la propriété n'existe pas. C'est ça, Ellie ?
Alors, c'est un point qui est hyper important, parce qu'il est fondamental dans nos sociétés, mais vraiment fondamental au sens premier du terme. Tu parlais d'exemple des animaux. Les animaux ont des concepts de territoire et ils le défendent par la force.
C'est vrai.
Ouais, par la force, exactement.
Et exactement. Et en fait, la loi, avec un grand L...
Donc c'est un mauvais exemple. Ensemble, là, c'est vrai, t'as raison, il y a une notion de territoire.
Alors, c'est pas un mauvais exemple, au sens où il permet de définir justement un élément fondamental, c'est que la loi avec un grand L, elle est là pour protéger le plus faible dans son droit. Et du coup, c'est pas parce que t'as une massue plus grosse que la mienne que tu vas être capable de dire, bah, ce terrain, il est à moi, ou cette œuvre d'art, elle est à moi, ou cette voiture, elle est à moi. Et pourquoi ? Toute organisation sociale moderne garantit la protection de ses citoyens basée sur le droit. Et qu'on le veuille ou non, les premiers textes écrits, c'est-à-dire les 10 commandements, et même avant, la Torah, et si on remonte encore, les premiers textes ont été des textes d'organisation sociale, c'est-à-dire des textes de loi. Et c'est vrai que si on remonte sur la notion de propriété digitale, les pionniers de la blockchain disaient « pas besoin d'intermédiaire, code is law », donc sous-entendu, il n'y a même pas besoin de loi, parce qu'on a le code. Sauf que, quelqu'un de très bien comme Primavera De Filippi, qui est une célèbre activiste, qui est chercheuse au CNRS, à Harvard, elle a dit en fait quelque chose de vraiment intéressant. Il y a eu dans la première ICO, c'est-à-dire cet appel à l'investissement sur un projet de blockchain qui avait été fait sur Ethereum le 17 juin 2016 et qui se sont fait hacker. Et en fait, le hacker a même pas, c'était même pas vraiment un hack, il a simplement utilisé la manière dont le code avait été codé.
Il a exploité une faiblesse.
Il a exploité une faiblesse, mais techniquement, c'est un peu comme de l'optimisation fiscale, quoi. Il a récupéré 50 millions de dollars simplement en faisant fonctionner le code comme il était supposé marcher, mais pas comme les parties qui avaient initié le projet avaient voulu effectivement que ça fonctionne.
Donc ça veut dire que la loi, elle est sujette aussi à une interprétation
du code.
Et que le problème du code, c'est que cette interprétation, elle est peut-être pas suffisante, c'est ça ce que tu es en train de dire ?
Absolument. Et du coup, Primavera, elle a dit à ce moment-là, les organisations sociales ne peuvent pas être exclusivement dirigées par le code.
Est-ce que Julien est d'accord avec ça ?
Ouais, je suis assez d'accord dans l'absolu, mais en fait, je suis plutôt assez d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, il y a vraiment une vraie question de se dire, est-ce que quand tu dis code is law, ça a été popularisé ici par Larry Lessig aux États-Unis, qui est un avocat d'ailleurs à la base et un chercheur qui a d'ailleurs été candidat à l'élection présidentielle, je crois, de 2016 aux États-Unis pour les démocrates, qui dans les primaires. Je pense que ce que j'entends là-dedans, c'est pas tant que code is law au sens loi légale, mais au plus aux lois de la physique. C'est-à-dire que c'est en fait, tu peux pas aller contre. C'est-à-dire que dans une blockchain, quand le code est écrit d'une façon ce NFT appartient à Carlos, toute la force du monde, et on va revenir sur le force, ne pourra pas changer cette loi. C'est-à-dire que c'est pas comme une.
C'est comme la gravité.
Toute la force du monde ne peut pas empêcher je peux pas empêcher la gravité de s'exercer. Je peux essayer éventuellement aller dans l'espace pour ne plus avoir de gravité. Mais quand tu as un smart contract qui s'exécute, et même avec un bug, entre guillemets, mais avec une faiblesse, il s'exécutera de cette sorte-là. Donc moi, je l'interprète plus pas tant comme une loi, entre guillemets, qui serait administrative, enfin qui serait on se met d'accord sur comment ça marche, sur le fait que une fois que c'est encodé littéralement, tu vois que c'est dans du code, C'est plus changeable. Et c'est pour ça que pour moi, l'histoire de propriété devient hyper importante, parce que pour la première fois, on a un mécanisme de propriété qui n'est plus sujet à de la force. C'est-à-dire qu'une fois que tu vois, t'as un NFT qui est attaché à ton adresse Ethereum, Carlos, je peux te taper dessus autant que je veux, je peux aller te mettre en prison autant que je veux, il y a aucun moyen autre.
Tu resterais propriétaire de ce NFT, que tu le veuilles ou non.
Que je le veuille ou non. C'est-à-dire que je n'ai aucun moyen. Je peux essayer de
te faire. Et ça, c'est nouveau.
Et ça, c'est nouveau.
Et ce qui est aussi nouveau, et que j'aime beaucoup ce que tu expliques dans ton article, c'est la notion de contrôle. C'est-à-dire que ça revient à la conversation qu'on avait avant, c'est-à-dire que quand on parle de biens numériques, que ce soit par exemple une vidéo, une image, un texte, en fait, on n'a pas véritablement le contrôle de ça, puisque cette vidéo, elle est centralisée par exemple sur YouTube, et celui qui a véritablement le contrôle, c'est YouTube. C'est lui qui décide, comme le disait Ellie, de mettre en avant cette vidéo, ou de la mettre en fin de liste, etc., etc. Là, le fait d'avoir sa propriété numérique de quelque chose fait qu'aujourd'hui, j'en ai aussi le contrôle. Et tu donnais un exemple, j'aimerais bien que tu nous le donnes, Julien, qui est avec cette voiture. Par exemple, quand j'achète une voiture, j'ai un contrôle total de ce bien-là. Or, quand j'ai une vidéo sur YouTube, je n'en ai aucun contrôle.
Alors, je pense que même la voiture, t'as pas un contrôle total. Tu peux pas aller à 400 km sur l'autoroute si un jour tu payes pas tes impôts, le fisc peut venir te la chercher et te dire, écoute, bonhomme, elle est plus à toi, cette voiture. Non. Mais t'as un contrôle autre que juste la propriété. C'est-à-dire que je peux la conduire où je veux, l'emmener où je veux. Si j'ai envie de partir en week-end ce week-end, je peux le faire. Je n'ai pas à demander.
T'as pas à demander l'autorisation au fabricant, au constructeur automobile.
Exactement. Si je veux changer la couleur des sièges ou faire un peu de tuning sympa dans ma voiture, je peux le faire. Alors, dans une certaine limite, on voit que ça, ces choses qui sont en train de changer et que le monde logiciel remet ça en question. Il y a un exemple assez marrant, ou pas marrant d'ailleurs, Sonos, il y a quelques années, qui avait dit à tous les gens qui avaient un boîtier Sonos physique qu'ils avaient acheté, désolé, il marche plus. Et ça, pour le coup, c'est quand même, à mon avis, une vraie question de propriété. Mais comme tu dis, une vidéo sur YouTube, un post sur Twitter, sur Facebook, la question de qui est en contrôle de ça est vraiment critique. Et surtout, qu'est-ce qui se passe le jour où la plateforme décide de le virer, la plateforme décide de le censurer, de le supprimer, ou la plateforme ferme. Toutes ces boîtes qui sont des entreprises certes très profitables aujourd'hui, ne sont que des entreprises, n'ont pas de vocation à être éternelle, universelle, permanente. Enfin, c'est pas de la gravité pour le coup, c'est pas quelque chose qu'on aura du mal à contrer.
Et je donne un exemple, ne serait-ce qu'avec ce podcast, encore une fois, c'est que quand vous achetez le NFT de cette émission, ce que vous allez faire, j'en suis certain, demain j'arrête de payer le hosting de Silicon Carnet, cette émission elle n'est plus disponible, alors que si vous êtes le propriétaire du NFT, parce que le fichier est hébergé de façon décentralisée sur Arweave en l'occurrence, l'accès en fait à ce contenu, il vous est garanti de façon éternelle, que moi-même je le veuille ou non, quoi. En fait, c'est ça qui est fou, c'est-à-dire que cette émission, si je décide de la supprimer de mon flux RSS, elle restera quand même disponible pour le propriétaire du NFT et il en aura toujours le contrôle.
Absolument, fais gaffe à ce que tu dis, hein, parce que dans 2770 ans, il y aura des archéologues du numérique qui vont être capables de retrouver ça. Mais c'est exactement. C'est tout à fait un point hyper valide, c'est de dire qu'aujourd'hui, si toi tu décides d'arrêter de publier ton podcast et de payer ton hosting provider, y a un autre où ils vont probablement supprimer tes fichiers qui sont hébergés. En revanche, tous ceux qui vont être mis sur des plateformes de stockage décentralisé type Arweave, entre guillemets, sont là pour toujours. Alors pour toujours, il faut peut-être le nuancer. Elles seront là pour toujours tant que l'écosystème dans son ensemble existe. C'est-à-dire que Arweave s'est fait de telle sorte que c'est tout un tas de nœuds, comme ça, réseau peer-to-peer, qui eux-mêmes contribuent
comme
Internet, qui contribuent à héberger ce fichier. S'il y en a un qui disparaît, il se passe rien. S'il y en a deux qui disparaissent, il se passe rien. Si une majorité d'entre eux disparaît, il commence à se passer des choses. Là où ce qui est intéressant, c'est que ils peuvent pas choisir de dire le fichier de Carlos, je le vire, mais je garde le fichier de Ellie. Ils sont obligés de, c'est tout ou rien, entre guillemets, de leur point de vue à eux. Ce qui devient hyper intéressant d'un point de vue réseau, c'est-à-dire de dire, en fait, on est ensemble dans le même bateau, et on pourra en parler, c'est une propriété collective, entre guillemets. On est ensemble dans le même bateau, ce qui veut dire qu'on se met, on est forcé de travailler ensemble. Et moi, je trouve que c'est une notion hyper intéressante dans un monde qui se déchire aujourd'hui, et plus que jamais, j'ai envie de dire.
Ellie, je te passe la balle là-dessus, parce que là, je parle de Arweave, mais tous les NFT ne sont pas organisés de cette façon-là. D'ailleurs, la grande majorité, pour pas dire presque la totalité des NFT, ne permettent pas une décentralisation du média comme nous on le permet, par exemple, avec Silicon Carnet. Et ça, c'est un vrai risque.
Alors c'est un vrai risque. Alors il y a aussi deux angles morts, et d'ailleurs même Arweave ne répond pas à cela. Le premier angle mort, c'est les problèmes de données confidentielles et personnelles. La technologie montre, et d'ailleurs ils le disent eux-mêmes hein, dans leur FAQ, qui travaillent sur la question avec plein de gens parce que c'est un vrai problème, si tu stockes un contenu illicite, illégal, parce que soit l'auteur n'a pas donné son autorisation, soit parce que fondamentalement le contenu qui est évoqué est offensant dangereux. Ou dangereux, le problème c'est que c'est irrévocablement stocké quelque part. Donc il y a à un moment donné la question du contrôle qui se pose. Or le problème c'est que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. S'ils mettent en place des mécanismes de contrôle qui permettent de retirer, ça veut dire que le contenu n'est plus immutable. Immuable. Et donc, tu remets en cause tout le principe de fonctionnement, parce que ça veut dire qu'il y a une décision qui peut être prise par un mécanisme. Alors, est-ce qu'il est central ou pas? Est-ce que c'est un vote de la communauté ou pas? Mais typiquement, tu as une décision de justice qui dit bah, « Vous êtes gentils les gars, mais le dernier film de Scorsese, vous me l'effacez de Harwiff parce que ça a été mis là illégalement. » Ils vont faire comment? Donc ça, c'est des questions qu'ils connaissent et qui sont... ils disent, on est en train d'en discuter, il y a des vrais soucis.
Quand tu dis « ils vont faire comment », moi, ce que je trouve qui est encore plus intéressant, c'est « on va faire comment ». Parce qu'en fait, c'est
oui,
pas eux,
parce que
pas
c'est décider, le...
quoi. Ouais, exactement.
C'est une... On revient à la gouvernance décentralisée,
exactement,
absolument.
Exactement.
Et il y a un deuxième angle mort, il est extrêmement facile de protéger les auteurs légitimes, en fait. C'est-à-dire que toi, quand t'es auteur et que tu publies, c'est toute la chaîne est de plus en plus facile à mettre en œuvre, et les NFT, de manière absolument indiscutable, sont une technologie ultra sécurisé, c'est-à-dire grâce à la blockchain, c'est irrévocablement créé. Par contre, il y a un énorme angle mort, c'est que si tu mets un mensonge dans la blockchain, d'accord, c'est comme un coffre-fort. Si tu mets un mensonge dans un coffre-fort, ça en fait pas une vérité. Et le problème aujourd'hui, c'est que les technologies de blockchain et associées sont tellement sécurisées, c'est tellement empli de cryptographie, de décentralisé, de clés publiques, de clés privées, on te garantit que c'est totalement immuable, que les gens ont l'impression que tout ce qui sort de la blockchain est la vérité. Or, c'est totalement faux. Et le problème, et je donne un simple exemple, l'année dernière, en plein été, Bansky vend un NFT d'une œuvre digitale aux enchères, acheté 300 000, l'équivalent de 300 000 dollars, d'accord ? Le problème, c'est que le lendemain de cette vente aux enchères, Bansky dit les gars, je suis désolé, mais c'est pas moi.
Bon, après, il est spécialiste des happenings. Oui. Ce que je trouve génial avec lui, c'est qu'on s'en parle.
Mais c'était vraiment non, pas lui. C'était
bon,
vraiment
rien,
pas lui.
Enfin, ça se trouve, c'était lui.
Mais le point que tu fais est tout à fait valide. Parce que je pense que c'est clair, c'est que
c'est un vrai problème en fait. Et ce problème-là, en fait, d'être sûr que ce que tu achètes est authentique, parce que demain, quelqu'un prend les deux premières minutes. Du premier épisode de Silicon Carnet.
Qui est un NFT.
Et se crée un NFT en disant, eh ben, moi, j'ai le droit de le faire. J'ai discuté avec le propriétaire et il m'a donné l'autorisation de créer un NFT. Et il publie ça. Et il a une caisse de résonance plus importante que l'auteur originel. Je sais pas si c'est possible, mais imaginons. Et donc, derrière, il le vend 300 000 dollars. Eh ben, c'est un problème. Et ce que je décris là, c'est pas une utopie. J'ai un pote qui est artiste. Il a des œuvres qui commencent à bien fonctionner dans le digital. Et ben, il a découvert, alors qu'il est pas du tout tech, hein, il connaissait pas les NFT. Il a découvert le monde des NFT en se rendant compte qu'il y a des gars qui avaient pris une de ses photos, qui avaient créé un robot qui a créé 10 000 NFT en appliquant des filtres, et il a vendu des NFT. Il a envoyé des emails. Il a tenté de faire quelque chose, mais tu peux pas appeler la blockchain. Tu peux plus rien faire.
Allô, la blockchain, il n'y a pas de 1-800.
Et justement, le tout ce point-là, c'est un des critères clés. Et donc, bah, typiquement, nous, ce qu'on essaye de faire avec Logion, c'est justement ça. C'est de faire en sorte que tout ce qui rentre sur la blockchain a été vérifié par un processus qui va sécuriser juridiquement, et on revient à la loi. C'est-à-dire qu'au final, il n'y a pas quelqu'un, parce qu'il est plus intelligent que toi sur la blockchain, ou parce qu'il a plus de tokens que toi, ou parce qu'il sait mieux manipuler les réseaux que toi, qui va te voler. Parce qu'au final, il y a une notion de... C'est-à-dire qu'on va donner au NFT toute la puissance de la notion de certificat numérique. Sauf que tu ne peux pas avoir certificat numérique sans que tu aies preuve d'authenticité.
Alors, cette semaine, on parle avec mes invités de NFT et de propriété numérique. Je suis en compagnie de Julien Genestou, qui est le fondateur de Unlock, un protocole sur la blockchain. Et puis aussi, un autre protocole sur la blockchain, c'est Logion. Je suis avec Élie Auvray. On est tous les trois en train de discuter de propriété numérique, de NFT. On sait que c'est un sujet qui est hyper chaud et on essaye d'y voir un petit peu plus clair. Si vous appréciez Silicon Carnet, n'hésitez pas à le faire savoir. La meilleure façon d'aider cette émission, c'est de partager ces épisodes à travers vos réseaux sociaux, d'acheter aussi le NFT. Alors merci d'avance pour vos messages, vos recommandations, que ce soit sur Twitter, Facebook ou LinkedIn. je pense que cette émission va être longue. On en est déjà à presque 40 minutes et on n'a pas fini. On n'en est qu'à la première partie. On rentre dans la deuxième partie. Je parlais de cet article que tu as publié, Julien, qui est absolument génial. Et je mettrai le lien vers cet article. D'ailleurs, tiens, bah voilà, typiquement, le genre de choses qu'on peut faire avec un NFT, c'est ceux qui achètent le NFT peuvent avoir accès à d'autres sources, à plein de bonus quoi, en fait, là-dessus. Pourquoi pas une conversation avec Julien, ça pourrait être ça aussi. Voilà, j'ai le NFT de l'émission, donc je peux faire un zoom privé avec Julien et Ellie pour parler de mes propres questions, de mes propres interrogations sur le domaine. Dans cet article, et je trouve que tu as pris une analogie que j'ai trouvée super intéressante, où tu expliquais qu'aujourd'hui, hein, ce Web 2 dans lequel on est en train de rentrer dans le Web 3, mais on n'y est toujours pas, on vivait dans une forme de féodalisme. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Ouais, alors bon, je suis pas historien, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur terme.
Non, c'est très très juste, hein, mais expliquons déjà ce que tu entends par féodalisme et en quoi est-ce qu'on vit dans ce féodalisme aujourd'hui sur Internet.
Et ben aujourd'hui, si tu veux, quand tu vas naviguer sur Internet, tu vas créer de la donnée qui va être elle-même exploitée par un seigneur local, alors que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google, pour te donner entre guillemets accès ou te nourrir un peu au même titre que le cerf du Moyen-Âge qui était sur la terre d'un seigneur local qui avait le droit entre guillemets d'aller cultiver son champ. Donc t'as le droit d'aller poster ton contenu sur Facebook en échange de quoi le seigneur t'offrait de la protection, et en échange de quoi Facebook va t'offrir du contenu recommandé. À ceci près qu'en fait dans la pratique toutes ces données que tu fournis, c'est vraiment la valeur de Facebook, c'est-à-dire que Facebook, Google, je dis Facebook mais c'est vraiment un peu le cas de toutes ces boîtes là
tu enrichis la terre de Facebook, la terre de YouTube, mais toi tu n'as aucune propriété de quoi que ce soit.
Aucune propriété de quoi que ce soit, c'est même pire que ça, tu sais même pas ce qu'ils prélèvent de comme information à ton sujet, c'est un peu opaque. Ce que tu sais juste, c'est que dans ton jardin, tu vas avoir quelques gens qui vont venir voir tes radis et être capable d'avoir un peu d'isolité là-dessus. Par contre, le jour où en fait tu deviens une grosse marque, et c'est un peu, ou même un gros créateur, tu te rends compte que tous ces gens qui soi-disant voient tes radis, en fait, les voient pas vraiment. Qu'il va falloir que tu payes en plus pour qu'ils voient tes radis, alors que c'est toi qui as créé les radis, c'est toi qui avais attiré tout le monde sur ta page Facebook, mais c'est quand même Facebook qui décide. Donc il y a vraiment cette espèce de côté, je suis pas en contrôle, pas au sens, je suis pas propriétaire de mon contenu, de mes données, des interactions que je vais avoir, de mes relations avec mes amis. Alors, que c'est d'être propriétaire, c'est d'être en contrôle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, typiquement, tu vas poster quelque chose, tu ne sais pas lequel de tes 100, 200, 300, 500 amis va le voir, alors que tu l'as écrit pour eux et tu le postes à leur attention, entre guillemets. Mmh. Donc ça, c'est vraiment une grosse question que je me pose. C'est d'un point de vue aujourd'hui de l'organisation d'Internet, on est dans un domaine où on est peut-être plus des esclaves, c'est encore une fois un mot un peu connoté, hein, mais
des gueux,
cerfs au service de quelques géants qui factuellement non seulement nous donnent du contenu qui est pas toujours le meilleur du monde, on va dire, mais qui en plus de ça s'enrichissent de manière complètement outrageuse, quoi.
À la défense des seigneurs en question, il y a quand même un truc, c'est que une des obligations au Moyen Âge, quoi, en fait, de ces seigneurs, c'était aussi de défendre leurs paysans. C'est très drôle, hein, cette analogie, je l'adore, parce que finalement, c'est aussi comme ça que se défendent les plateformes, en disant oui, c'est vrai, tu as raison, ça nous appartient, etc. Mais on défend aussi la paysannerie en cas de conflit, c'est-à-dire que grosso modo, on te protège, tes données, on a mis en place tout un tas de mesures pour protéger tout ça. Donc là, on revient à la notion de force. Ellie, ces seigneurs, ils reposent sur des lois. Est-ce que ce sont eux qui font les lois, quoi, quelque part?
Alors, ça, c'est une bonne question. Je dirais que déjà, ils protègent pas vraiment déjà leur gueux comme ils devraient, et surtout ils protègent pas, parce que c'est pas que d'une notion de protection des créateurs, mais il y a aussi des consommateurs, c'est-à-dire ceux qui voient l'audience. Et on voit bien que depuis des années la question de la curation et de la protection de l'audience, de ce qu'ils diffusent, est un vrai problème, à la fois en termes de type de contenu. Alors je parle pas de tout ce qui est en violation des droits de propriété divers et variés des personnes, mais également en termes de protection de l'audience, de contenu que tu n'es pas supposé voir, et de l'usage en plus des données pour pousser des contenus qui sont ouvertement poursuivant un rôle qui est contre la société, contre l'État. Les élections américaines, l'influence des messages postés sur Facebook par des robots de manière à influencer l'élection américaine. Alors, est-ce que ça a marché, pas marché, c'est pas la question. On est bien en face d'un usage de données qui a permis de diffuser des messages faux, de fake news, mais pour marteler, matraquer une population qu'on avait ciblée comme étant apte à adhérer à cela. Donc là, la notion de protection dont on parlait du Seigneur, elle n'existe même pas. Elle est drivée par un seul truc, le profit, c'est tout. Le Seigneur, il y avait le roi lui donnait une charge, et si d'ailleurs il ne remplissait pas cette charge, c'est-à-dire s'il défendait pas sa population, s'il ne partait pas à la guerre avec le, on lui retirait. Enfin, on n'était pas dû. Ouais. Voilà, c'était le principe. Et là, la comparaison, elle s'arrête là, parce que les plateformes, elles n'enrichissent que uniquement leurs actionnaires et leur objectif, c'est de faire un profit maximum au mépris justement des lois.
Mais Julien, pour faire continuer sur cette analogie, est-ce que on voit bien les gueux, de toute façon, c'est toujours eux qui payent à la fin, hein, donc on est d'accord. Sauf que ce qui est intéressant dans cette analogie là, c'est que on a l'impression que là la révolution, elle est du côté des bourgeois. Si je reprends cette analogie avec le monde médiéval, les créateurs, quoi, en fait, c'est eux les bourgeois qui fabriquent de la valeur, qui créent de la valeur et qui aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans le truc. J'ai l'impression que c'est eux qui sont en train de se réveiller. Je suis pas vraiment un pro-bourgeois, hein, mais pour continuer dans cette analogie, il y a un peu de ça là. Les commerçants.
Il y a tout à fait ça. Et je pense que, tu vois, pareil, je suis pas historien non plus, mais les révolutions, c'est malheureusement ou pas d'ailleurs, c'est jamais les gueux entre guillemets qui les mènent. C'est dans les villes.
Mais non, ils sont manipulés.
Les bourgeois, malheureusement, ils sont manipulés. C'est dans les villes qu'elles naissent, enfin en tout cas voilà, la révolution française, c'est dans les villes que c'est né et qui en un ou en autre arrivent à convaincre et à emmener avec eux la populace,
le peuple.
En disant les gars, ça commence à bien faire. Petit correctif, parce que comme j'ai dit, c'est 18,6 millions de dollars l'amende de
et
Facebook.
Et ok, bon super, on est passé au niveau du budget des snacks pour la zone Benelux.
Voilà, à peu près, okay. Je pense qu'on est vraiment d'accord. Sur un truc mineur de chez mineur pour Facebook. Mais après, le point que Ellie faisait, je pense qu'effectivement GDPR est hyper utile au sens où elle met un point sur la table. Moi, ce qui me gêne, entre guillemets, pas dans GDPR, mais dans l'attitude générale du législateur, c'est que c'est une attitude un peu de délégation. En fait, comme tu dis, les malheureusement, les hommes de loi ou les femmes de loi, mais bon, c'est pas si souvent le cas que ça, arrivent après la bataille. Et en fait, au début de la bataille, ils disent, vous savez quoi, en fait, on sait pas comment faire. On va déléguer notre autorité, entre guillemets, à Facebook, à Google, à Twitter. On va dire, les gars, c'est à vous. En fait, compliqué, démerdez-vous. Et peut-être même qu'il y a un peu de ce qu'ils appellent aux États-Unis de la régulation compétitive, c'est-à-dire de dire, en fait, ces lois, elles vont
favoriser. Du lobby, quoi.
Comment ? Du lobbying, mais du ces lobby. Lois, elles vont favoriser, ou elles vont empêcher l'émergence de petits acteurs parce que les gros, entre guillemets, on leur fait confiance. Et malheureusement, je pense que c'est un peu le cas dans toutes les industries. Regulatory capture, c'est vraiment une vraie stratégie pour les grosses boîtes de se dire, attends, on va se protéger de l'émergence de nouvelles choses en demandant aux régulateurs de compliquer la tâche des choses nouvelles. Et GDPR, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est des lois qui sont globalement assez compliqué à enforcer, et si t'es un peu à enforcer, oulala, ça c'est pas très français, mais
à mettre en œuvre,
ouais. Et si t'es un petit acteur de réseau social aujourd'hui, tu ne peut quasiment pas, j'ai envie de dire, être GDPR compliant.
Alors justement, moi je trouve que la RGPD en bon français a permis l'émergence de business model où la collecte sauvage de données qui est pour moi un vrai problème. Ma donnée, c'est une valeur que je génère et dont j'en ai aucune rétribution. Et donc, tu as des acteurs du Web 3. Je suis advisor dans une startup qui a cette vision de créer un wallet en fait de données pour inverser la relation avec les marques. C'est-à-dire que c'est pas les marques qui ont un CRM, un Customer Relationship Management System, c'est les consommateurs qui ont un Brand Relationship System. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent leur relation avec les marques et qui décident ou pas de récupérer
telle ou telle data. On a eu le fondateur de Sysmo la semaine dernière qui travaille à ça, c'est-à-dire grosso modo c'est moi qui décide selon le site dans lequel je visite quelle information est-ce que je partage, propos de mon identité avec ce site-là, en fait. Donc c'est exactement ça, c'est inversement en fait du Customer exactement, Relationship ouais. Management vers du Brand Relationship Management.
Et moi je suis très content que des startups qui voudraient reproduire le modèle de vente de data à la Facebook ne soient pas capables de faire. C'est bon pour tout le monde, hein.
Mais je veux dire, c'est qu'il faudrait aller dans ce cas au bout du paradoxe. C'est pas j'allais dire juste les petites startups qui veulent le faire ne sont plus capables de le faire, c'est il faudrait que ce soit beaucoup plus sauvage à l'égard des gros qui enfin tu vois
bah, ils se prennent des fines de plus en plus importantes hein,
ouais enfin on est à 18,6 millions de dollars on est d'accord hein, dans, je veux dire, dans la philosophie maintenant c'est...
L'ICO en UK il y a deux ans pour un data breach de data c'est 200 millions de dollars qu'elle a infligé. Alors après
mais ça c'est de la pocket money quoi, 200 millions c'est que dalle pour Facebook oui. Quoi, en fait ils s'en foutent c'est rien quoi en fait pour eux. Quand je vous écoute, on peut se poser la question du rôle des intermédiaires. Dans ce Web 3, on voit bien, on essaye de minimiser l'importance des intermédiaires. Pourtant, ces intermédiaires, même dans le Web 3, ils existent. OpenSea, par exemple, qui est cette plateforme d'échange et d'achat de NFT. Julien, c'est un intermédiaire. Si OpenSea disparaît demain, en gros, je peux être propriétaire de ma data, en avoir le contrôle, mais la façon dont ma data est visualisée reste encore entre les mains. Et y compris pour ma startup à moi, Uncut, c'est quand même moi qui montre le NFT du podcast, c'est Uncut qui le fait, donc je suis moi-même aussi un intermédiaire. Donc est-ce qu'on a toujours besoin d'intermédiaires dans
le
Web3?
Je pense qu'on a globalement toujours besoin d'intermédiaires, mais après la question c'est est-ce qu'il y a des check and balances, des contrôles sur cet intermédiaire qui peuvent faire que l'intermédiaire ne devienne pas lui-même prédateur. Tu vois, j'ai besoin de mon boucher pour aller acheter de la viande, je vais pas aller moi-même tuer une vache dans un champ au hasard. Pour le coup, mon boucher, il a tout un tas de contrôle qui fait que c'est pas lui qui élève la vache, c'est pas lui qui met ce qu'il veut dedans, qu'il y a une autorité sanitaire.
Mais l'origine de la vache, l'histoire de la vache, il la contrôle pas,
c'est visible pour tout le monde et ça veut dire que si un jour mon boucher me sert un bout de viande que j'aime pas, je peux aller chez le boucher d'à côté. C'est pas comme ça que le web marche aujourd'hui. Il y a pas 36 Facebook, il y a aucun moyen de consommer de la donnée qui vient de mes amis sur Facebook hors de Facebook, ce qui veut dire qu'ils contrôlent toute la chaîne et que donc ils sont plus intermédiaires, ils sont non seulement intermédiaires, j'ai envie de dire, mais contrôleurs. Il y aura toujours, après toujours, je sais pas, mais j'ai du mal à imaginer un monde où je me sers même plus de mon laptop. Enfin, tu vois, quelque part, mon écran est un intermédiaire. Mon écran a du logiciel qui tourne dedans, qui décide de ce qu'il m'affiche, comment il m'affiche les choses. J'aurais toujours besoin d'un intermédiaire. La question, c'est est-ce que cet intermédiaire, il prend le contrôle de ma relation ou est-ce que cet intermédiaire, il me facilite la tâche? Et je pense que ce serait intéressant d'arriver dans un monde où l'intermédiaire facilite la tâche parce que ça veut dire que ce sera un monde meilleur pour tout le monde. Ça veut pas dire qu'il y a de la baisse de qualité. Ça veut dire juste que maintenant, je deviens le client. La fameuse citation qu'on entend un peu partout, if you're not the customer, you're the product. J'aimerais bien être plus le client quelque part. Dans plein de cas, j'aimerais bien dire, les gars, en fait, vous bossez pour moi. Comme ça, je sais ce que je veux, je sais ce que j'attends de vous, je sais ce que je fais. Si je ne suis pas content, vous savez ce que vous m'offrez.
Je voudrais qu'on termine cette émission sur un sujet autour des NFT qu'on me pose souvent. C'est la question de la valeur d'un bien numérique parce qu'il y a plein de... quand je disais, c'est un sujet de Discord, les NFT, beaucoup de gens disent... Non, mais c'est n'importe quoi, le prix des NFT, ça se vend des millions alors que ça vaut rien, etc. Je regardais une vidéo il y a pas longtemps sur YouTube, je me rappelle même plus de leur nom, c'est un show qu'il y a sur YouTube en français, c'était assez pathétique, on comprend que les mecs parlent des NFT, mais ils comprennent rien du tout en disant « Regarde, c'est nul, l'image est pourrie, et les mecs vendent ça 10 000 dollars, n'importe quoi, nanana. » Bon, tu montres à un imbécile la lune, il regarde le doigt, quoi, bien évidemment. On le sait, mais comment est-ce que vous expliquez la notion de valeur d'un bien numérique, Julien ?
Et écoute, moi, je l'explique pas. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, dans l'absolu, c'est de la valeur de marché pure. C'est-à-dire que s'il y a un clampin qui est prêt à payer 10 000 dollars pour une image floue, qui est-ce que je suis pour dire que c'est pas vrai ?
Eh ben, cette image vaut 10 000 dollars.
Qui est-ce que je suis pour dire que c'est pas vrai ? Enfin, je veux dire, le seul petit, voilà, la petite astérix que je mettrais là, c'est méfiez-vous que le clampin qui paye 10 000 dollars pour l'image floue n'est pas le même clampin qui a fait l'image floue. L'exemple de base, c'est cette chère Madame Trump qui a vendu des NFT et en fait, on s'est rendu compte que c'était elle qui avait acheté ses propres NFT pour je ne sais quel combien de dizaines
pour
de
faire
millions.
Augmenter la valeur puis quelque valeur. Part en créant
exactement donc il y a évidemment des acteurs malicieux on va dire pour utiliser des mots un peu doux qui vont abuser de ce système là mais dans l'absolu si quelqu'un est prêt je veux dire j'habite à New York il y a des mecs qui achètent des appartements à des dizaines de millions de dollars pour moi ça vaut pas
est-ce
ça
est-ce que ça les vaut
pour moi ça vaut pas ça mais c'est pas moi qui les paye c'est-à-dire que si tu me demandes de payer ça je te dirais non s'il y a un mec qui le fait qui est-ce que je suis pour dire que ça vaut pas ça enfin je veux dire c'est un grand garçon une grande dame
ou dans l'art moderne c'est pareil quand les gens disent
Z imagé flou, mais enfin bon, il y a des gens qui achètent des cadres où c'est un cadre noir, quoi, en fait, d'une seule couleur, quoi, en fait, et qui valent des centaines de milliers de dollars ou voire des millions de dollars.
À Soulage, moi, je serais très content d'en avoir un parce que j'adore ce qu'il fait, mais j'ai pas les moyens de m'en payer, hein, parce que c'est voilà, c'est, et pourtant c'est,
ouais,
c'est tout.
Et donc cet argument qui consiste à dire, bah moi, je pourrais faire la même chose, bah ouais, mais tu l'as pas fait.
Non mais voilà,
grosso modo, quoi, en fait.
Il y a pas beaucoup plus ouvert comme plateforme que les NFT. Si tu penses que, alors, comme disait Ellie, malheureusement, il y a beaucoup de plagiat, mais si tu penses que t'as une idée meilleure que les autres et que ça vaut 10 millions de dollars, go ahead, vas-y, c'est, enfin, je veux dire, la porte est ouverte et on t'attend, quoi.
Moi, dans cette question sur la valeur, moi, il y a quelque chose qui me dérange énormément. Moi, j'estime qu'attaquer la valeur, c'est attaquer la liberté.
Ouais, exactement.
Et c'est un des principes fondamentaux. Je suis libre de dire combien vaut quelque chose. Et quelque part, les gens sont libres de considérer que ce que je demande pour ce que j'ai produit vaut ou ne vaut pas cette valeur-là. C'est intrinsèquement lié c'est quasiment une liberté fondamentale.
Parce que c'est un discours moralisateur, exactement, que certains se placeraient au-dessus des autres pour dire, ah non, mais ce que tu viens d'acheter, en fait, t'es un bonnet. Tu t'es fait avoir, mais de quel droit t'as le droit de me dire que ce que j'ai acheté n'a pas de valeur?
Absolument.
En fait.
Et après, effectivement, et moi là-dedans, je mets aucun jugement moral là-dessus. C'est-à-dire dépenser 65 millions de dollars pour un NFT de Peeble versus le donner à une œuvre caritative, on peut avoir une discussion comme ça forever. Voilà, c'est pas le problème. Maintenant, ça ouvre une autre question de valeur qui est beaucoup plus profonde et philosophique, sociétale. Qu'est-ce qui fait la valeur du dollar, les gars?
Ouais.
À la fin.
Et hop, on repart pour une heure et demie.
On peut aller très loin et on repart pour une heure et demie. Tout à fait. Mais c'est pour ça que la notion de valeur. Mais
c'est la confiance qu'on apporte. En fait, c'est finalement la confiance,
exactement,
qui crée la valeur. C'est-à-dire qu'on a considéré que le dollar était une valeur de confiance mutuellement, on s'est accordé là-dessus, plus que les pépites de chocolat, quoi, j'en sais rien. Mm-hmm. Et voilà, donc il y a effectivement un contrat social qui a été passé là, quoi, en fait, pour considérer que... Moi, en faisant des recherches sur cette notion de valeur, je suis tombé sur deux distinctions qui me paraissent intéressantes, et tu vas voir, ça fait écho à ce que tu fais aussi chez Unlock, voire aussi chez Logion. C'est dans la littérature économique, il y a une division intéressante entre ce qu'on appelle la valeur fonctionnelle et la valeur hédonique. Alors ça, c'est intéressant. C'est la valeur fonctionnelle, c'est à quoi ça sert, quoi, grosso modo. Et on a vu qu'un NFT peut servir à quelque chose. Ça peut être une carte d'accès à tout un tas de choses. Et la valeur hédonique, c'est à quel point j'aime cette chose en elle-même. Et parmi cette valeur hédonique, il y a le fait, ces NFT, puisque l'historique en fait des NFT est maintenant visible, il y a des gens qui disent, je considère que ça a de la valeur parce que quelqu'un d'autre l'a détenu avant moi. Par exemple, j'ai acheté cette photo ou ce cadre une somme d'argent conséquente parce que pendant 10 ans, il a été dans le salon de Mick Jagger, qu'en fait, et ça lui a apporté une valeur supplémentaire, parce qu'il a une histoire. C'est l'histoire de la Joconde qui a appartenu à Napoléon, et que voilà, et ça a apporté encore plus de valeur à la Joconde, au cadre lui-même. Et là, les NFT sont super intéressants.
C'est génial. Il y a une histoire assez marrante, c'est le rappeur US là, qui pendant longtemps dans le monde des NFT, pendant
Snoop Dogg,
exactement. Il y avait un compte un peu inconnu de quelqu'un qui semblait très riche, qui avait acheté plein de NFT un peu cher, qui s'appelait Cosumo de Medici, si je dis pas de bêtises, structure qui avait acheté pas mal de NFT. Et en fait, il s'est avéré, en fait, un jour, cette personne, alors les rumeurs veulent qu'il allait être outé par des gens de son entourage, mais en fait, c'était Snoop Dogg qui, de son compte Twitter vrai, a dit je suis Cosumo de Medici. Et d'un seul coup, tous les NFT qu'il avait en portefeuille, évidemment, ont explosé en valeur, mais surtout, les NFT qu'il avait possédés et revendus depuis ont explosé en valeur. Donc, c'est vraiment cette histoire de
valeur hédonique. Et là, on est complètement là-dedans.
De la fierté. Et après, il y a de la spéculation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, moi, j'en ai rien à foutre que Snoop Dogg ait possédé le NFT, mais je suis persuadé que quelqu'un d'autre va valoriser ça de manière hédonique et donc le prix va monter.
De la même manière que dans le métavers Sandbox, il y a un terrain à côté de la maison virtuelle de Snoop Dogg, c'est vendu 2 millions de dollars et c'est un propriétaire de mall américain qui a acheté ça parce qu'il s'est dit que forcément des gens allaient du passage.
Je suis super content que tu me dises ça parce que moi j'en ai acheté un pas loin de chez Snoop Dogg dans The Sandbox, mais je l'ai payé 9 000 $.
Ah, pas mal.
Donc je ne l'ai pas payé 2 millions de dollars. J'ai pas vérifié si quelqu'un m'avait fait une enchère là-dessus.
Point que tu mentionnes, Carlo, c'est hyper important. Ça pose la question de la transmission de la valeur. Parce qu'en fait, on est en train de parler de NFT et on est en train de dire, mais c'est forever. C'est-à-dire que c'est gravé dans la blockchain, sous-entendu, c'est gravé, c'est indélébile, c'est immuable. Mais, et en plus, on va être capable d'avoir une totale traçabilité parce qu'avant, le fait que c'est appartenu. Je sais pas, que j'ai acheté quelque chose qui appartenait à Napoléon. Qui est-ce qui me le disait? Bah, c'est un expert, mais comment je pouvais croire un expert? Bah, parce qu'il était embauché par un commissaire priseur dans le cadre d'une vente aux enchères. Et il faut que toute la chaîne de confiance soit respectée. Pas évident. Là, on se retrouve avec des œuvres.
En France, ça va, mais quand il est au Burkina Faso ou dans d'autres pays moins développés où ces structures-là n'existent pas.
Et malheureusement, même en France, c'est pas
mal. Et c'est pas sûr.
Et même en France.
Exactement.
Ouais.
Et donc là, tu te retrouves avec une possibilité de traçabilité. En plus, quand t'es sur des œuvres numériques, bah, alors là, t'as une traçabilité complète, hein, très clairement. Mais se pose, et c'est un angle bord qu'on n'a pas abordé, mais dans la transmission de la valeur, qu'est-ce qui se passe si moi je décède? Alors j'espère pas, hein, mais ça va arriver un jour.
Ça va t'arriver.
Voilà,
hein,
ça va m'arriver. Et le problème, c'est que je sais pas, vous connaissez un gars qui s'appelle Stéphane Thomas?
Ouais,
Stéphane,
bien sûr.
Stéphane Thomas, c'est un développeur qui s'était fait payer en Bitcoin en 2012,
je crois.
Ouais, 2012, ouais. Pour un job qu'il a fait informatique, c'était un développeur à New York, 8000 Bitcoins. Et il a perdu le mot de passe de sa clé, il a mis ça sur un cold wallet. Il a
ah merde
220
ah ouais,
millions de dollars. 220 millions de dollars. Le montant de Bitcoin, je parle juste des Bitcoins, hein, je parle même pas des NFT et des autres, je parle juste de Bitcoin, tel que référencé par l'analyste, tiens encore un nouvel acteur du monde de Web3, Chain Analysis, qui fait justement des requêtes partout sur la blockchain pour essayer de choper des données, a considéré que le montant des wallets perdus, c'est-à-dire du nombre de bitcoins dans des wallets qui sont complètement bloqués, inactifs, donc dans le même
et
cas
pour toujours,
le même cas que Stephen Thomas, c'est 140 milliards de dollars.
Ouais, j'avais 150 milliards en tête, mais 140, ok, c'est colossal.
Et donc, cette notion, et Vitalik typiquement disait, Bitcoin disait, la notion de social recovery, c'est la capacité d'un moment donné, si tu paumes ton password, ou si tu n'es plus en capacité de te le donner, comment ta famille récupère ce qui a de la valeur? Dans ton wallet, il y a de la valeur. Si c'est un NFT, une œuvre d'art, ça a de la valeur. Si c'est des bitcoins, ça a de la valeur. Comment je les récupère? Et donc, ces mécanismes, aujourd'hui, ils sont régis dans la société civile aujourd'hui, mais sur le Web3 ils le sont pas. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec le GUN, c'est qu'on essaye de montrer qu'un huissier de justice dont c'est le métier qui est capable de faire ce genre de choses, eh bien va être capable de protéger les assets digitaux et donc la valeur qui est générée, et que c'est une condition sine qua non de la propriété digitale, parce que sans protection et sans loi qui encadre l'interaction entre les utilisateurs et ces propriétés digitales, bah, qu'est-ce qui va se passer? Eh bah, ben c'est celui qui est le meilleur développeur, le meilleur hacker, ou celui qui va venir chez toi avec un pistolet sur la tempe et qui va te dire bah tu me transfères tes assets sur ton wallet. Avantage, enfin sur mon wallet. Avantage, c'est que c'est complètement traçable. Bon, ça au moins on pourra retrouver les personnes, mais au moins il peut y avoir un dernier rempart. Et surtout, en cas de problème, d'avoir quelqu'un de neutre qui fait ça.
Ok, bon, on voit, il y a plein de trucs à développer, il reste encore plein de choses. On va arrêter cette conversation ici parce qu'on a dit plein de choses et on a dépassé l'heure d'émission, mais c'était génial et je pense que je vais la garder telle quelle parce que vous avez été géniaux, les gars. Merci beaucoup. Je pense que les gens vont y voir un peu plus clair. En tout cas, je ne sais pas s'ils y vont plus clair, mais en tout cas, on en a parlé, comme on dit dans Silicon Carnet. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Silicon Carnet. Hasta luego, amigos!